Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat sur l'épargne salariale, car c'est la 8e édition de la semaine de l'épargne salariale. Et oui, objectif, informer de manière objective les salariés et les entreprises sur tous les dispositifs qui existent, l'intéressement, la participation, les actions à prix préférentiel. On va en discuter ensemble avec François Omri, le président de la CFE-CGT, et Mathieu Chauvin, président d'ERES Group. Bonjour à tous les deux, rebonjour, parce que François Omri était déjà avec nous. Ça va s'accélérer, l'épargne salariale, notamment parce qu'au 1er janvier 2025, il y aura une nouvelle obligation,
Christophe. Bah oui, notamment toutes les PME de plus de 10 salariés, elles aussi vont devoir mettre en place un dispositif d'intéressement, de participation, bref, un type de partage de la valeur avec leurs salariés. Est-ce que c'est un bon chemin, François Omril, d'obtenir plus de pouvoir d'achat grâce à ces dispositifs ?
Donc, nous, on est signataire de l'accord. On l'a négocié. Donc, tous les accords qu'on signe, on les défend. Donc, moi, je défends ce dispositif-là. La CFE-CGC dans les entreprises où ça existe, où c'est une part importante qui est distribuée, est favorable à ce dispositif-là. La question qui se pose, et on va en parler, c'est la question de la substitution. Ouais. Il s'agit évidemment d'être attentif à ce que ces dispositions d'épargne salariale, qui sont finalement corollaires avec les dispositifs d'intéressement, dans leur majeure partie, ne viennent pas tuer les dispositions d'augmentation de salaire. Ce qui demeure absolument fondamental, c'est que les salaires évoluent au moins au niveau de l'inflation. Donc si dans les entreprises, ça devenait un moyen de contourner cette nécessaire évolution des salaires, là, pour le coup, on aurait un problème.
Mathieu Chauvin, aujourd'hui, il y a 400 000 boîtes à peu près dans lesquelles il y a des dispositifs d'épargne salariale. Ça fait 12,5 millions de personnes couvertes. Est-ce qu'il y a des cas où il y a de la substitution ? Parce que c'est ça le sujet, c'est salaire vs épargne salariale.
Oui, absolument. On a la chance d'avoir un dispositif qui a déjà pas mal d'années derrière lui dans les grandes entreprises. Ouais. C'est des mécanismes qui sont très, très développés dans ces environnements-là. Il n'y a a priori pas d'effet de substitution. En tout cas, les éléments chiffrés qu'on nous livre nous le démontrent. Il y a même un principe de non-substitution qui est inscrit dans les textes et qui a été rappelé d'ailleurs par cet accord national interprofessionnel, et on a réaffirmé ce principe de non-substitution, c'est-à-dire que quand un chef d'entreprise décide de mettre en place un dispositif de partage de la valeur nouveau,
ça s'additionne.
C'est un additif par rapport les éléments de rémunération fixes et variables. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas remplacer une prime commerciale aux objectifs existants qui est chargée par un dispositif d'intéressement ou de participation.
Alors, ce qui est intéressant avec ce nouveau dispositif dont on parlait, 1er janvier 2025, les PME de plus de 10 salariés vont devoir aussi mettre en place ces dispositifs. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit qu'il y a un écart entre les grandes entreprises et les petites, et que c'est vrai que quand on est salarié d'un grand groupe, on a plus d'avantages que quand on est salarié d'un petit groupe. Est-ce que vous pensez qu'on va réduire justement l'écart ?
Je pense qu'en tout cas que c'est la volonté première, et effectivement, ces dispositifs qui existent et qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de 50 deviennent obligatoires dans les entreprises de plus de 10 salariés. C'est fondamental parce que on estime qu'il y a moins de 18% de ces entreprises-là qui sont équipées, donc il n'y a pas de ruissellement de la valeur créée par les entreprises dans leur activité économique du quotidien au profit des collaborateurs et des salariés. Quand on fait des bons résultats, on veut partager mieux partager avec les salariés. C'était le principe fondateur des discussions aussi, de redire qu'il fallait redonner une part de la valeur créée dans une phase où le gouvernement notamment a beaucoup subventionné les entreprises pour les aider à subsister dans des configurations compliquées. Il fallait aussi que les salariés aient leur part du lion dans cette économie-là, et cet accord vient sanctionner positivement cette volonté.
François Omril, comment c'est reçu dans les entreprises en matière de compréhension ? Tout le monde n'est pas gestionnaire de patrimoine. Vous avez la question du versement direct et puis ou du placement que vous pouvez mettre sur un PE, sur un PERCO, avec de l'argent qui peut être bloqué, qui est récupérable mais sous condition. Est-ce qu'il y a aujourd'hui les explications nécessaires pour les salariés ?
Non, c'est sûr que c'est un point sur lequel il faut développer beaucoup de pédagogie. Mais je vais revenir sur la question des petites entreprises versus les grandes. Ouais. Et puis après, répondre plus précisément à votre question. C'est très clair aujourd'hui. La création de richesse, elle se fait dans les petites entreprises. Ouais. Les très grandes entreprises captent la richesse. Parce que le partage de la valeur, c'est aussi une question verticale dans la chaîne de valeur entre les petites entreprises sous-traitantes pour beaucoup de marchés et les très grandes entreprises.
Donc là, les grandes aussi, quand vous concevez un avion comme Airbus, plus, vous créez de la valeur aussi.
Mais vous créez de la valeur à partir de sous-traitants. Dans la chaîne de sous-traitance de l'aéronautique, vous avez une chaîne de sous-traitants jusqu'à 7 sous-traitants.
Il y a la partie.
Mais ça marche plutôt bien. Votre exemple est très bon. L'aéronautique, justement, la filière s'est organisée de façon consensuelle pour que la valeur soit correctement partagée du plus petit sous-traitant jusqu'au plus grand. Mais c'est pas le cas partout. C'est la valeur exemplaire, mais c'est pas le cas partout. Et c'est pour ça que ce dispositif qui permet d'étendre ce partage de la valeur dans les plus entreprises, nous, on y est favorable. Un dernier point pour caractériser la différence, c'est que quand vous êtes un salarié âgé, puisque c'est le sujet, les salariés seniors, l'assurance chômage, etc. Cet exemple-là, tout le monde le connaît, dans une très petite entreprise, un contremaître dans un garage, quand il part à la retraite, c'est souvent une catastrophe pour l'entreprise, parce qu'il emporte avec lui toute la valeur qu'il représente au travail. Alors que dans une très grande entreprise, les plans sociaux s'accumulent à partir de 58 ans, vous êtes persona non grata. Donc vous voyez, cette différence-là, eh bien, c'est une très bonne chose de pouvoir donner les moyens aux entreprises de mettre en place ces dispositifs-là avec, et je termine là-dessus, effectivement, cette nécessité de faire évoluer l'interaction entre les représentants des salariés, pour le coup dans l'entreprise, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau un peu plus global, et la façon dont ces fonds sont gérés, sont mis à disposition et surtout sont mis en relation avec, on va dire, une forme d'éthique de gestion.
Alors, qui explique justement à ce contremaître, je repose ma question parce que personne m'a répondu, j'en commence, sur la question de la formation, le contremaître, qui va lui expliquer le PERCO, le PE, le PER, comment ça fonctionne? C'est le rôle du DAF, c'est le rôle du DRH, c'est le rôle des syndicats, c'est qui?
C'est le rôle de la direction de l'entreprise avec les moyens dédiés. Dans une petite entreprise, effectivement, il y a moins de moyens pour le faire. Et c'est le rôle de la représentation du personnel, s'il y en a une dans l'entreprise. Et là, d'une certaine façon, on touche à la question de la façon dont la représentation du personnel s'organise de façon plus ou moins consensuelle avec l'employeur. Et c'est pas inintéressant d'ailleurs de voir que de mettre en évidence le fait que c'est toujours un plus pour l'entreprise d'avoir une représentation syndicale.
On se met à la place des petits patrons dans les PME qui vont devoir effectivement mettre en place ces dispositifs. Quand j'ai 12 ou 15 salariés, on me dit qu'il faut que je fasse de l'intéressement, de la participation. On n'a pas de DAF, on n'a pas de DR. On fait comment ?
C'est un vrai sujet. L'accès à l'information, la capacité d'être bien accompagné, bien conseillé, puisque comme on le dit, répondre à l'obligation réglementaire, c'est une chose. Savoir si on est concerné, c'en est une autre. Ouais. Quels outils on peut utiliser pour y répondre, c'est encore une autre question. Et pour ça, les bons interlocuteurs qu'on peut avoir auprès de soi quand on est chef d'entreprise en région, c'est son expert comptable, c'est son conseiller en gestion de patrimoine, son courtier, qui sont des gens que l'on forme au quotidien pour justement être en capacité d'accompagner les chefs d'entreprise dans ces réflexions-là. Mais toute la difficulté de l'équipement de ce marché de la très petite entreprise, il est essentiellement celui des relais auprès de ces employeurs pour les aider à réfléchir au bon système à mettre en place.
Est-ce que vous savez combien de salariés préfèrent un versement direct par rapport à ceux qui préfèrent placer?
Oui, on le voit très bien puisque ces stats sortent chaque année. 60% des gens épargnent, 40% perçoivent les primes d'intéressement et de participation quand elles leur sont versées. Ça veut dire que...
Sachant que quand on épargne, on a souvent l'abondement en plus. Donc c'est souvent...
Dans certains cas, dans d'autres, non. Et parfois, on fait le choix de l'épargne parce qu'on n'a pas d'usage immédiat et donc on n'a pas besoin de trésorerie immédiate. Parfois, on veut ne pas payer d'impôt sur la prime qui nous est versée et le moyen de ne pas payer cet impôt, c'est d'épargner ça dans un dispositif d'épargne salariale. Et donc, les salariés font leur choix chaque année et donc on ne confisque pas de pouvoir d'achat. Au contraire, on leur en donne puisque chaque année, ils peuvent décider de percevoir ça immédiatement.
C'est l'incitation fiscale
qui motive pas d'impôt gens,
il faut le dire. C'est l'incitation fiscale et au passage, effectivement, on voit l'effet de conjoncture qui fait que dans notre période actuellement où il y a des difficultés de pouvoir d'achat, eh bien, les gens, ils ont plus de difficultés à l'épargner.
Alors, une question encore, parce qu'on a parlé d'intéressement, de participation, il y a aussi, effectivement, les actions à prix préférentiel. Dans votre baromètre, dans votre panorama de l'actionnariat salarié, vous dites que, dans l'édition 2024, 38 opérations collectives ont été menées par des entreprises du SBF 120. Ça veut dire qu'encore une fois, dans ces grands groupes, soit le CAC 40 ou le SBF 120, il y a souvent des dispositifs d'action à prix préférentiel. C'est pas le cas dans les PME. Est-ce que vous souhaitez aussi, François Bric, que dans les PME, souvent, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises familiales, on trouve des mécanismes d'ouvrir le capital aux salariés?
Mais bien sûr, bien sûr. Nous, on y est très, très favorable. C'est un moyen par lequel on associe les salariés aux résultats de leur travail dans l'entreprise. Et je crois que au-delà de l'effet symbolique, parce qu'il faut voir quelle est la réalisation en termes concrets, en termes de volume d'actifs, mais c'est quelque chose qui aide à un objectif commun entre les salariés et le chef d'entreprise pour le développement d'entreprise.
La réconciliation autour du capitalisme.
Hein. Mais alors, vous étiez favorable au dividende salarié ou pas? Ou c'était pas une idée
Non, nous on n'était pas favorable à la façon dont ça a été présenté. Alors, on estime qu'il y a suffisamment de dispositifs aujourd'hui, on est en train d'en parler d'un, hein, qui est assez complexe et qui a vocation à s'étendre. Le dividende salarié, nous, ça nous plaît pas parce que c'est quelque chose qui nous emmène sur un autre sujet qui est la maximisation du profit pour l'actionnaire comme étant un moyen de rémunération du salarié. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on pense que le problème, justement, les risques psychosociaux, etc., tout ce qui se développe à travers les organisations stressantes, c'est le fait qu'on mobilise les salariés et leur énergie sur la maximisation du profit pour l'actionnaire et non pas sur le développement de l'entreprise.
L'ouverture du capital, donc, aux salariés, c'est quelque chose qu'on, là aussi, on peut encore accompagner le chef d'entreprise là-dessus?
Oui, absolument. Et c'est un vrai enjeu sur lequel nous, on est mobilisés au quotidien, accompagner les PME, les ETI dans le développement de cette association des collaborateurs au capital. Là aussi, il faut des conseils parce que ça, c'est des matières qui sont déjà un peu plus complexes. Donc, d'abord, ce qu'on a l'habitude de dire aux chefs d'entreprise, commencez par partager la valeur dans des mécanismes d'intéressement et de participation. Et le niveau supérieur, c'est probablement celui de l'actionnariat salarié. Et pour emmener les salariés avec vous dans un projet à plus ou moins long terme, c'est idéal de pouvoir les associer à la valorisation de l'entreprise en les aidant avec des décotes sur le prix de l'action, donc des prix préférentiels de souscription, en les aidant avec de l'abondement, avec des primes qui leur permettent d'acheter ces actions, et donc on réduit leurs risques.
Merci à tous les deux. Merci François Bril et Mathieu Chauvin.
C'est pas fini, la huitième, la semaine continue de l'épargne salariale. Vous pouvez en parler dans vos entreprises.